Pierre Guillemin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la gestion diversifiée
Oui.
et des actions donc chez Swiss Life Asset Managers. On va parler avec vous de stratégie d'investissement,
Oui.
de perspectives sur les marchés. Comment vous avez vécu, alors on est encore en train de le vivre pour les investisseurs chips, même si on n'est peut-être plus au cœur hein, de ce drame européen, en tout cas vécu comme tel par certains investisseurs, mélodrame on pourrait dire. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça a changé un peu la vision que vous aviez de la zone euro?
Non, ça n'a pas changé. C'est les derniers, à notre avis, ce sont les derniers soubresauts de cette crise qui dure depuis 2 ou 3 ans. Et donc, il faut régler les problèmes les uns derrière les autres. La situation, s'assainit maintenant sur le sud de l'Europe. La dette, grecque est maintenant principalement détenue par la banque centrale ou les banques centrales. L'économie espagnole, les économies portugaises, s'améliorent. Elles exportent même. Donc, petit à petit, ils ont fait les réformes structurelles nécessaires. Et si on projette les chiffres dans 2 ou 3 ans, on pense même que finalement, ils sortiront peut-être pas si perdants que ça de l'affaire. Tant mieux pour eux. Chypre, ce sont, et peut-être d'autres, ce sont les derniers éléments qu'il faut régler, et ils doivent être réglés, et ils seront réglés.
Alors, en même temps, on a vu hein, peut-être plus de craintes d'investisseurs anglo-saxons, hein, clairement sur le marché, disant, mais attendez, comment l'Europe règle ce sujet-là, ça ne va pas. Les investisseurs européens avaient été plus prudents, peut-être plus confiants sur la résolution de la crise. Il y avait quand même deux versions. Hein, les investisseurs anglo-saxons restent un peu dubitatifs sur ce qui se passe en Europe.
Bah, si vous parlez de nos voisins anglais, de toute façon, par définition, ils sont toujours dubitatifs. Donc, ne serait-ce que ne faisant pas partie de la monnaie unique. Donc, à ce niveau-là, pas de surprise. Maintenant, comme toujours, quand il y a une crise, bah, qu'est-ce que vous voulez? Il y a toujours les optimistes et les pessimistes. Ceux qui voient le monde en noir et donc qui va s'effondrer, et puis ceux qui pensent que les situations vont se résoudre. Le problème de Chypre, il est bien sûr une hypertrophie du système bancaire, on l'a bien vu, mais aussi dans des conditions, on va dire, d'acceptation de fonds qui ne sont pas du tout dans les critères normalement acceptés au sein de la zone euro. Et c'est pour ça que l'arbitrage doit avoir lieu. Il y a une situation d'arbitrage qui est malheureusement pas cette fois-ci financière, mais plutôt fiscale et structurelle. Elle doit se résoudre. Elle est en train d'être résolue. La pression qui a été imposée à Chypre par les autorités européennes, on peut la discuter dans la forme, mais dans le fond, elle est certainement justifiée.
Alors, si on revient sur les marchés actions, il y avait eu une belle progression, on va dire, jusqu'aux élections italiennes. Après, il y a eu à nouveau des doutes. Chypre a ramené à nouveau un peu de doutes. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les marchés actions européens?
Mais les doutes, il y en a toujours. Rappelez-vous que l'année dernière, jusqu'au mois de juin, à peu près, de 2012, qui aurait parié que l'année 2012 serait finalement une bonne année boursière? Donc on voit des choses. Malheureusement, les actions ont ceci de particulier que, bien sûr, on dit qu'il faut être patient. Ce mois de mars qu'on vient de passer, bah, les bourses ont monté. L'Eurostoxx 50, l'indice des bourses européennes, il est en hausse significative sur le mois de mars. Donc bien sûr, il y a eu les élections italiennes, mais malgré tout, les fondamentaux des entreprises restent vivaces. On a une croissance qui existe dans certains pays de la zone euro, et puis bien sûr dans d'autres pays du monde. Nos entreprises, 75% des entreprises du CAC 40 sont des entreprises qui ont leurs affaires en dehors de la France. Elles profitent de cette croissance. Alors là, évidemment, on n'est pas dans des croissances à deux chiffres dans nos pays développés, mais cette croissance, elle existe aux États-Unis, elle existe dans d'autres pays du monde, et petit à petit, on en prend une partie, ce qui n'est déjà pas si mal. Peut-être pas assez, ça c'est un autre débat, mais on en prend une partie.
Alors, on parlait des investisseurs anglo-saxons. Si on parle des États-Unis, on voit que ça va mieux sur le plan économique, en tout cas si on compare à l'Europe, à la zone euro. Mais il reste des sujets aussi de dette, hein,
Bien sûr, bien
clairement,
sûr.
qui sont pas
Qui sont des
réglés.
vieux sujets, en fait. Si, il y a 20 ans déjà, on s'interrogeait sur qui détenait la dette américaine. Aujourd'hui, bien sûr, il y a ce fameux fiscal cliff qu'on repousse en permanence. À un moment donné, là aussi, il y a une situation d'arbitrage, elle devra être résolue. Avec un avantage quand même pour les États-Unis, c'est que leur structure économique est extrêmement élastique. Et la preuve en est, c'est que, heureusement pour eux, l'indice des actions Standard & Poor's 500, dividende réinvesti, est au plus haut historique. Donc, pour un actionnaire qui a vécu la crise de 2008, en tout cas un actionnaire américain uniquement investi en actions américaines, Eh bien, pour l'instant, la crise de 2008 est effacée. Alors, jusqu'à la prochaine, certainement. Mais les faits sont là. L'économie américaine est une économie extrêmement réactive dans les deux sens.
Alors, il y a eu effectivement sur les marchés émergents, on peut pas dire toujours beaucoup de performances, même si il y a des croissances, hein, des économies. Il y a des questions sur la Chine, sur cette année 2013.
Ouais.
Comment vous envisagez ces marchés émergents?
Alors, je crois que d'abord, la condition des marchés émergents d'il y a 10 ans, c'est plus du tout la même. La question que nous nous posons déjà, est-ce qu'on peut qualifier la Chine, je crois que c'est le troisième PIB mondial, d'un pays émergent? Donc à ce niveau-là, vu la taille du pays, bien sûr, il y a une convergence qui doit se faire sur les économies, mais elle se fait petit à petit. On entend ici et là, bien sûr, qu'il y a des bulles immobilières en Chine. Là aussi, il y a des arbitrages structurels qui seront faits. Ils seront faits aussi par l'augmentation des besoins de la population. Donc la Chine doit aussi adapter son économie, certainement à son économie interne davantage. Est-ce que ça nous est bénéfique? Charge à nos entreprises, bien sûr, et à nous, financiers investisseurs, d'accompagner les flux vers de plus grands investissements à l'étranger. Mais je crois que l'idée fondamentale, peut-être, c'est de plus considérer la Chine comme un pays émergent. C'est déjà un pays qui a convergé, certainement.
Voilà, avec un marché intérieur qui est en
Oui,
train de se développer.
exactement. Oui. Et donc d'autres soucis.
Alors justement sur les perspectives, on voit peut-être la stratégie des banques centrales se réaliser, c'est-à-dire plus d'investisseurs sur les marchés actions, sur les marchés obligataires. Si on regarde sur l'année dernière, 2012, ça a bien performé. Est-ce que c'est la fin justement sur cette partie obligataire? Certains disent qu'il y a encore un peu de rendement à aller trouver. Quelle est justement, peut-être en conclusion, l'évolution de la stratégie entre ces actions, ces marchés obligataires?
Alors, l'évolution de la stratégie, en ce qui nous concerne, elle est liée à l'évolution du spectre, la façon dont on comprend le risque financier. Aujourd'hui, notre impression, c'est que le risque pour les actions, il est correctement dans les prix, il est dans les prix à un niveau convenable. Au niveau des obligations, elles ont fait bien sûr une performance exceptionnelle, non seulement sur les derniers mois, mais je dirais presque depuis 30 ans. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les taux vont remonter un jour ou l'autre? On est en droit de le penser, mais de combien? Aujourd'hui, par exemple, si on a un taux à 10 ans sur l'obligataire allemand à 1,2 ou 1,3%, est-ce que le fait de remonter à 2 ou 2,5%, qui de toute façon est fort comme remontée en point de vue capital, mais si c'est cette seule remontée, on restera dans un environnement de taux long bas et peut-être pour longtemps. Notre vraie question, elle est là. C'est-à-dire que accepter qu'on remonte à 2, 2,5, voire 3%, c'est déjà une bonne remontée, bien sûr. On le verra dans les portefeuilles et donc il va falloir que nous, professionnels, nous agissions en conséquence. Par contre, ça ne résout pas le problème fondamental où le risque finalement pour l'investisseur est de continuer à vivre pendant peut-être 10 ans, voire plus, je ne sais pas, sur des taux bas qui induisent des politiques d'allocation peut-être légèrement différentes.
Voilà, donc c'est effectivement l'enjeu, tout le pari de gérer cette éventuelle remontée que pour l'instant.
C'est d'abord notre métier, c'est pour ça que nous sommes des gérants d'actifs, hein, bien sûr, et nous souhaitons l'être et continuer à l'être. Donc nous prônons une gestion active de ces risques-là. C'est ce que nous offrons à notre clientèle et à ceux qui nous font confiance. Mais je crois que oui, infiniment, c'est là que se joueront les prochains défis auxquels nous serons confrontés.
Merci Pierre
Je vous en
Aiguillemin
prie.
d'avoir été avec nous. Donc, en fait, vous êtes directeur de la gestion diversifiée et actions chez Swiss Life Asset Managers.
Merci beaucoup.